Salut Pierre-Yves.
Salut Patrick.
Bon, ben le populaire animateur Jean-Philippe Dion est aussi producteur de télé. Là, il a acquis 49% de ce qu'on appelle production déferlante.
Oui, et c'est un fait divers pour la plupart des gens, mais c'est intéressant de voir l'évolution d'une business comme celle-là dans le monde d'aujourd'hui. Là, tu es dans une situation où tous les médias perdent des revenus publicitaires. Et le producteur, ben, doit fournir du contenu à un prix concurrentiel. Et acheter des actions aujourd'hui d'une compagnie de production, c'est tout un défi. Tu sais, tu te dis, attends une minute, là, je vais faire du produit futur, je vais payer un prix immédiat en fonction de revenus futurs dont on ignore la grandeur. Mmh. Je te donne un bon exemple d'aujourd'hui. Avant, l'ado, dans les années 90, regardait Ouattatata. On blague, là. Mais aujourd'hui, il regarde TikTok. Alors, disons que j'ai une heure de temps à investir. Avant, je pouvais regarder la télévision. Puis ça s'arrêtait là, tu sais. Je vais au Nintendo peut-être. Et là, tu te dis, attends, je peux passer une heure sur TikTok ou une heure sur Instagram à regarder la dernière niaiserie d'Arnaud Soli. Et ça t'enlève de devant ta TV. Mm-hmm. Et donc, on vit avec cette réalité-là. Et le producteur, au travers des années, ben, il a vu des concurrents apparaître. Beaucoup d'animateurs et animatrices sont devenus producteurs ou productrices. C'était Jean-Philippe Dion, Charles Lafortune, France Beaudoin, Pierre-Yves Lard. Véronique Lucie, pas vraiment, mais t'as Louis Morissette, donc c'est comme une unité familiale. T'as aussi Datit Studio. Donc, tous ces gens-là, Zone 3 Attraction, se battent pour la même part de marché. On doit aller où à l'extérieur? Oui, le contenu de la valeur. Mais en affaires, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de certitude. C'est une industrie où ça joue extrêmement dur. Tu sais, le producteur, Patrick, il est comme en deux chaises. D'un côté, il doit flatter l'ego de sa vedette puis donner ce qu'elle veut dans les limites du raisonnable. Et de l'autre côté, il doit flatter aussi le producteur. Alors, c'est comme le tampon entre les deux. Et contrôler les coûts parce qu'il garantit un show à un certain prix. Et c'est lui qui prend le risque à la fin de ne pas faire son pourcentage de profit pour couvrir ses risques. Alors là, t'as deux types de producteurs. T'as des producteurs qui ont des coûts fixes importants avec des locaux, de l'administration, des caméras. Puis t'as l'autre type de producteur qui dit... Chaque fois que j'aurai un contrat, ben j'aurai plus de coûts, mais je n'aurai pas autant de coûts fixes. Alors, tous ces gens-là se battent pour la même tarte. Et on veut augmenter ses parts. Alors, comme investisseur, ce que Jean-Philippe Dion fait, c'est un pari risqué, mais c'est un pari quand même qui peut être payant. Mais chose certaine, il y aura des vedettes qui vont passer. Il y aura des étoiles filantes. Mais il y aura toujours besoin de contenu. Et le producteur est là pour ça. Mais quand même, aujourd'hui... Avoir une boule de cristal, connaître l'avenir et connaître l'avenir des médias alors qu'on sait que les coûts de production augmentent toujours et qu'il y a des bénévoles sur Internet qui font du bon produit, c'est pas facile. Je te donne un exemple. Je peux te faire, avec une caméra à 2 500 $, à peu près la même image qu'une caméra qui coûtait 75 000 $ dans le temps. As-tu pensé comment ça élimine les barrières à l'entrée des concurrents?
T'as raison, mais le contenu gratuit qui est produit... C'est une sorte de vitrine pour te faire embaucher ailleurs, des fois à la télé.
Oui, effectivement.
Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, là, mais les gens qui font du contenu gratuit sur Internet, quand ils se font appeler par la télé, ils sont contents de se faire payer. Là.
Ça, c'est quand tu es une personne de contenu, parce que tu peux aussi t'en servir pour ta business puis vendre du linge ou vendre des affaires ou vendre des spectacles. Comme Arnaud Soli, je pense pas qu'il fait fortune avec ses vidéos actuellement, mais il dégaine... tellement rapidement des idées originales qu'après ça, ça va lui servir pour vendre des spectacles ou même avoir une émission de télé, t'as raison, oui. Ultimement, t'as raison. Mais c'est pas facile. Alors, je te pose la question, Patrick, toi, est-ce que tu te lancerais dans une business de production aujourd'hui comme personne?
Ben, non, parce que c'est pas mon métier. T'sais, Jean-Philippe, je sais que lui, il y a une main là-dedans depuis longtemps. Il connaît ça. Moi, j'ai une part de production pour Deux Hommes en Or, là, mais c'est tout.
T'sais, tu ne te lancerais pas dans le risque de gérer du monde, c'est ça que tu veux me dire?
Non, écoute, avec la radio puis autre chose, j'ai pas d'espace disque pour ça.
Puis, même moi, je suis comptable, puis je ferais même pas ça là, parce que, comme tu dis, c'est une expertise, mais c'est quand même stressant. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour les producteurs. Quand je fais un show de télé, je regarde les coûts. Puis je dis, OK, ça coûte combien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce que ça va aller? On peut-tu faire ça? Non, ça va être trop cher. Donc, évidemment, c'est drôle d'avoir un comptable à l'écran parce qu'il pense à ces affaires-là. Mais, en tout cas, je voulais saluer le courage et l'ambition. Évidemment, ça dépend du prix payé. Tu sais, toute acquisition d'entreprise a une valeur et si tu payes le juste prix, c'est correct. Si tu payes 50 000 $, c'est une autre affaire. Mais si tu payes le juste prix dans le marché qui s'en vient, c'est correct aussi.
OK, tu veux nous parler de l'angle mort, là, de l'effet domino des reports de paiement.
Oui, parce que là, je sais pas si tu as vu, la CHL est sortie aujourd'hui pour dire, ben regardez, là, on s'est trompé, on pensait que le marché immobilier allait baisser, mais ça s'est pas tout à fait réalisé, effectivement, ça a juste augmenté. Mais il dit attention aux reports de paiement. Et c'est vrai que présentement, on vit comme dans... T'as-tu déjà fait de la trampoline?
Il y a longtemps.
Tu sais, quand tu sautes, là, t'es comme en apesanteur pendant une seconde, puis tu te penses le roi du monde. Ben, on est un peu là, parce que aujourd'hui, j'ai reçu ma lettre de la ville de Montréal pour me parler de mes taxes reportées, mais qu'il faudrait que je paye dans les prochains mois. Il y a des gens qui ont eu des reports de paiement hypothécaire. Mm-hmm. Il y a des gens qui, présentement, vont arriver avec une facture d'impôt en 2020, qui vont faire une entente avec le gouvernement pour reporter en 2021, ce qui va amener probablement leurs impôts de 2021 à être reportés en 2022 avec une entente de paiement. Il y a aussi toute l'aide gouvernementale qui est arrivée et l'endettement qui va être reporté à plus tard. Et donc, il y a aussi le décrochage scolaire qui va avoir des conséquences plus tard. Il y a des jeunes qui sont entrés sur le monde du travail en septembre ou en juin et qui sont en attente que la machine reparte, mais qui vont se retrouver en concurrence pour entrer sur le marché du travail avec les prochains qui vont sortir de l'école aussi. Et donc, si tu ajoutes l'impression de cash et la fin des prêts pardonnables, des prêts pardonnés, des subventions masse salariale, on va vivre, le contre-coup éventuellement qu'on ne sent pas encore. D'ailleurs, Patrick, il y a des statistiques sur l'épargne qui sont incroyables, mais qui sont faussées par tout ça. Alors, la question, c'est présentement...
Qu'est-ce que tu veux dire qu'ils sont faussées, les statistiques d'épargne?
Ben, mettons, moi, Patrick, là, j'ai reçu un chèque du gouvernement. Donc, je n'avais pas d'habitude. J'ai pas payé mes impôts. J'ai pas payé mes paiements hypothécaires. J'ai pas payé mes taxes foncières. Je les ai même pas provisionnées. Puis tout l'argent que j'ai eu, j'ai dit, tiens, je vais en mettre dans un compte CELI en attendant, ou un compte épargne, ou dans mes REER, puis je vivrai. Donc, temporairement, on a coupé mes paiements, on a augmenté mes entrées d'argent, puis on m'a mis sur le break de mes dépenses. Donc, ça peut juste être un jeu de vase communicant. Présentement, il y a des gens qui ont un taux d'épargne élevé reporté, mais que dans la réalité, leurs dettes ne se sont pas effacées, leurs paiements sont à venir, puis leur avenir est incertain. Et le paiement d'impôt qui n'est pas encore calculé à cause de l'impôt, ouais, ça s'en vient, là. On va faire ça pour le 30 avril. Bien, quand il va apparaître, on dit « Ah, j'ai une dette de 4 000! » OK, je vais reporter sur 12 mois. Donc, tout ce qui était dans le compte épargne artificiellement là, parce qu'on avait fermé les yeux sur les paiements et les dettes, va finir par se renverser. Et donc, oui, il y a des gens qui ont profité puis qui ont vu leur placement monter en argent, en valeur. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont eu de l'épargne et des paiements reportés et qu'ils ont une impression de stabilité financière présentement. Mais que quand la facture d'impôt va arriver, la facture des taxes foncières va être à payer, quand le report d'impôt, le report du paiement hypothécaire est terminé, quand il y aura un échec de vie, une séparation, peu importe ce que ce sera, il y aura un retour à la réalité. Là, je ne veux pas avoir de l'air du bonhomme 7 heures. Je ne veux pas avoir l'air du gars fatigué. Hein?
Mais tu vas quand même avoir l'air du bonhomme 7 heures.
Ouais, mais moi, depuis la pandémie, j'ai un autre nom.
C'est quoi?
Bonhomme 8 heures. Excuse-moi. Je suis en forme.
Tu l'as trouvé bonne, ta joke. Hein?
Oui, tu sais, je vais t'en donner une autre. Tu sais, on a parlé du congédiement de Kirk Muller.
Oui.
Tu sais, s'il y avait eu un fils, comment il l'aurait appelé? Si c'était un dentiste, il l'aurait appelé Kirk Muller. OK, ça va s'arrêter là.
Bon, je pense qu'on va arrêter là, Pierre-Yves. On est déjà en retard, mais écoute, c'est pas parce qu'on n'aime pas tes jokes.
Bye-bye.